Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est présentée ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Alexis Neviaski. Alexis Neviaski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur du séminaire des Barbelés 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthège. Vous êtes par ailleurs conservateur général du patrimoine et nous allons converser pendant 7h30 sur Franz Stock, sur ce séminaire des Barbelés, sur ce qu'il signifie à la fois pour l'époque, pour la réconciliation franco-allemande et puis en partie pour l'histoire de l'Église à ce moment crucial d'inflexion. Mes premières questions, Alexis Neviaski, comment j'ai toujours le plaisir et l'honneur de recevoir un auteur qui traite d'un sujet historique, c'est un peu faire la genèse de ce sujet. Est-ce que vous étiez déjà familier de Franz Stock? Est-ce que vous étiez déjà penché sur son histoire?
Alors non, je n'étais pas familier de Franz Stock, je ne m'étais pas penché sur son histoire, mais en revanche, dans mon poste précédent, nous avons publié, aidé la publication de ses mémoires de guerre que j'ai lu. J'ai été un peu déçu par la partie d'accompagnement des prisonniers parce que c'était en fait très répétitif. En revanche, dans la dernière partie du livre, il y avait le début de l'histoire du séminaire des Barbelés et ça, en revanche, ça m'a intéressé. Et donc, à partir de ce qu'avait commencé Franz Stock, puisqu'il avait commencé à écrire l'histoire de ce séminaire, je me suis plongé dans les archives qui se trouvent à la CNAEF, donc les archives de l'Église de France, au service historique de la Défense, et de là, je suis parti sur le suivi de Franz Stock et du séminaire des Barbelés.
C'était ma deuxième question, mais on va pouvoir fouiller un peu davantage la question des pièces à partir desquelles vous avez pu travailler. Le séminaire des Barbelés a une historiographie assez faible par rapport à, j'allais dire, l'importance du sujet et puis son côté très très plaisant dans un premier abord. Est-ce que les archives étaient bien classées? Est-ce que vous avez pu faire des trouvailles ou est-ce que finalement vous étiez un des premiers à les traiter, à les revisiter?
Alors, les archives, la plupart des archives, j'ai trouvé au Centre national des archives de l'Église de France. Ça, c'était vraiment les archives de l'Église. Ensuite, au service historique de la Défense, j'ai eu accès aux archives sur les camps de prisonniers, notamment sur le camp d'Orléans et puis de Chartres. Ensuite, je suis rentré en contact avec le postulateur de la cause de béatification de Franz Stock, qui m'a fourni des documents. Alors, la difficulté d'utilisation de ces documents, c'est que ils sont plus ou moins anonymisés, ils sont en séance et en fraction. Enfin, j'ai quand même pu les utiliser. Ensuite, je suis en poste à Strasbourg et j'ai pu accéder aux archives du diocèse de Strasbourg où il y a l'un des prêtres qui s'appelle l'abbé Jauneur qui en était originaire. Il y a également des archives qui sont en ligne. Il y a des documentaires qui ont été faits, donc effectivement, il y a assez peu d'écrits, mais en revanche, il y a des documentaires qui ont été faits soit avec des images d'archives, soit lors du jour du Seigneur. Et enfin, il y a quelques journaux et des périodiques, notamment la chronique du séminaire a été éditée en allemand dans les années 80, à la fin des années 80, et j'ai pu me les procurer et les traduire, donc c'est aussi une source précieuse. Enfin, sur Franz Stock, il y a une abondante bibliographie qui ne traite pas forcément d'ailleurs du séminaire, mais qui permet de remettre un petit peu le personnage dans son époque.
Ultime question pour les aficionados de cette émission en ont l'habitude. Qu'est-ce qui vous a donné, Alexis Neviaski, le goût de l'histoire, le goût de vous plonger dans ces sujets? Est-ce que c'est un goût que vous avez eu pendant l'enfance, pendant vos études? Finalement, qu'est-ce qui vous a conduit, au-delà de la jeunesse du sujet dont vous avez déjà fait part, à vous pencher sur cette partie de notre histoire?
Bon, en fait, mon parcours est assez... Et pas très linéaire, mais après une première partie de carrière dans l'armée, j'ai repris des études d'histoire, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la recherche en histoire. Donc à partir du moment où j'étais atteint par le virus, il ne m'a plus quitté, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais des recherches, ça m'a permis de faire d'ailleurs un doctorat. Voilà, donc c'est un processus qui a été lent.
Un processus lent mais qui est fécond puisque nous sommes avec vous pour cette heure et demie afin de parler de votre tout nouvel ouvrage, Alexis Neviaski, Le séminaire des barbelés 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthège. Dès votre avant-propos, vous sortez de votre champ chronologique, vous nous placez le 22 janvier 1963, au moment où Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient la réconciliation franco-allemande. Pourquoi avoir voulu repartir de cet avant-propos ?
Parce que je pense que c'est, dans l'histoire de la réconciliation de nos deux peuples, je pense que c'est pas ni un point de départ, ni un point d'arrivée, c'était une étape, et cette étape, elle s'est préparée avant, elle s'est préparée notamment grâce au séminaire des Barbelés, et d'ailleurs, c'est ce qu'a écrit Jacques Chirac quelques années plus tard à Helmut Kohl. Il y a une maturation d'une génération qui fait que finalement, politiquement, il était possible d'envisager la réconciliation. Et moi, ce que je traite, c'est la partie avant, le traité de l'Élysée.
Ce traité de l'Élysée, vous pensez vraiment que des initiatives comme celle du séminaire des Barbelés y ont contribué, j'allais dire d'une manière humaine, un peu souterraine, mais vous pensez que cela a eu une incidence réelle sur cette réconciliation franco-allemande ?
Ah oui, oui, je le pense. Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué de presse qui est sorti à l'issue de la signature du traité, hein, disant que c'était cette jeunesse qui avait joué un rôle déterminant dans la consolidation de l'amitié franco-allemande, et que donc c'est pour ça qu'il y a eu cet accord. Et donc, comme je vous le disais plus tard, Jacques Chirac a écrit à Helmut Kohl en précisant que c'était donc en parlant de Franz Stock qu'il avait été parmi les premiers qui avaient compris que la réconciliation était un état d'esprit et qu'elle était une construction de chaque jour. Donc je pense vraiment que c'est une d'autres initiatives, mais ça fait partie des initiatives qui ont rendu cet accord politique possible.
C'est la question que j'allais vous poser, et vous y avez certainement déjà répondu, mais peut-être que vous pouvez un peu prolonger. Évidemment, en 63, c'est une photographie de ce qui a déjà été fait dans cette réconciliation. Est-ce qu'on peut dire que Franz Stock est tout ou partie des acteurs dont nous allons parler ce soir avait conscience de participer à cette réconciliation franco-allemande, ou est-ce que finalement on extrapole vis-à-vis de leurs accomplissements ?
Non, ils en avaient conscience. Eux, l'Église, les militaires, et d'ailleurs dans les discours qui ont été prononcés à plusieurs occasions, Franz Stock le répète, on y viendra peut-être, hein, il y a à la fin, il y a un peu son testament spirituel où il parle de cette réconciliation. Le futur Jean XXIII dit que le séminaire est un honneur à la fois pour la France et pour l'Allemagne parce qu'il réconcilie les peuples. Donc c'est vraiment quelque chose, en tout cas je pense, qui à l'instant a participé à cette réconciliation dont les uns et les autres avaient conscience et qu'ils voulaient d'ailleurs former.
Entrons donc dans les prémices de cette réconciliation avec un premier chapitre intitulé « La lettre » et un premier acteur, Georges Lemeur, qu'on aurait pu imaginer tout autre, puisque Georges Lemeur a été arrêté deux fois par la Gestapo. Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait de cet homme et nous y dire en quoi il va jouer un rôle important dans l'édification de ce séminaire des Barbelés ?
Alors, l'abbé Lemeur, c'est un prêtre du diocèse de Paris qui a été emprisonné par deux fois, comme vous venez de le dire, et qui donc a rencontré Franz Stock en prison quand il était, lui, en prison. Le contact n'est pas passé entre les deux hommes, non pas parce que Franz Stock s'est pas intéressé à l'abbé Lemeur, mais parce que l'abbé Lemeur a vu en Franz Stock un Allemand, un Aryen, et l'abbé Stock n'a pas compris qu'on pouvait être résistant et prêtre. Donc leur première...
Oui, la communication à ce stade est difficile. Oui.
Voilà, c'était un peu compliqué. Et néanmoins, l'abbé Lemeur a été libéré une première fois. Ensuite, il est allé à Maison Alfort où il a protégé des élèves vétérinaires qui refusaient le STO. Il est rentré dans les réseaux de résistance. Il a été de nouveau arrêté après qu'il a été... dénoncé. Il est allé à Compiègne Et à Compiègne, il n'y avait qu'une poignée de braves, sachant qu'ils allaient partir en Allemagne. Ils se sont retrouvés et ils se sont dit qu'ils prendraient la fuite dès la première occasion. Ils ont réussi à monter dans le même wagon, avec un peu de matériel, à convaincre les prisonniers, les 80 prisonniers du wagon. Alors, ils ont pas tous été convaincus, mais en tout cas, ils les ont laissés faire. Et ils ont réussi à s'échapper entre Épernay et Bar-le-Duc. Donc, ils ont sauté en roulant, après avoir démonté des planches. Il s'est blessé en tombant, mais il a quand même réussi à rejoindre Châlons-sur-Marne à l'époque, en Champagne aujourd'hui, où il a été protégé et par le préfet et par le prêtre de la paroisse, et remis sur Paris. Et à la Libération, il a rejoint l'abbé Rodin, qui était le chef de
l'aumônerie générale.
De l'aumônerie générale du futur diocèse, dont il est devenu l'adjoint. Et à la Libération.
Il faut dire que l'abbé Rodin est un personnage en lui-même dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui s'occupait notamment des prêtres français déportés, qui a fait, qui a transmis des milliers, je crois, même des dizaines de milliers de Valise-Chapelle, etc.
Exactement. Et donc, en fait, il y avait deux fronts pour l'abbé Rodin. Il y avait à la fois, comme vous le dites, les prisonniers français en Allemagne, mais là, il héritait aussi des prisonniers allemands en France. Et donc, il confie cette tâche à l'abbé Lemeur, sachant que l'abbé Rodin avait voulu regrouper les séminaristes français, d'ailleurs avec l'aide de Vichy, dans un même camp, et qu'il n'y est pas parvenu. Donc là, l'objectif, on y reviendra après parce qu'il y avait déjà eu un précédent, l'objectif était de pouvoir concentrer tous les prêtres séminaristes ou religieux ensemble pour qu'ils puissent bénéficier de ce temps de prison, de camp, pour reprendre des études et reprendre le chemin de l'autel.
C'est le moment, sans doute, il y en aura plusieurs dans cette émission, où le recul de l'historien est important pour nos auditeurs. Quand on parle des prisonniers allemands en France, de quelle masse parle-t-on pour qu'on comprenne l'étendue de cette aumônerie ?
Alors, ça varie en fonction des époques, mais on parle en millions. Un camp comme Chartres, c'est 38 000 prisonniers. Donc, c'est quand même quelque chose de très conséquent.
C'est colossal.
Donc c'est finalement, donc à Chartres, il y aura 38 000 prisonniers, dont 950 séminaristes. Vous voyez, finalement, c'était assez peu de choses, et la complexité qui va se présenter, c'est de pouvoir les identifier et de pouvoir les transférer au bon endroit, au bon moment, sachant que au début, en tout cas, avant que la guerre se termine, vous avez des camps qui sont tenus par les Américains et par les Français. Et donc, il faut aussi des accords entre Français et Américains pour le transfert des prisonniers des uns vers les autres.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyre a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Neviaski, qui publie le Séminaire des Barbelés aux éditions Arthège. On peut revenir quelques instants, si vous le voulez bien, sur cette aumônerie des prisonniers allemands. Institutionnellement, comment elle se fonde ? Est-ce que c'est une pure action de l'Église catholique à côté de l'institution militaire ? Comment s'articule-t-elle institutionnellement ?
Alors, c'est une institution de l'Église, mais dans le système militaire, puisqu'en fait, c'est un général qui la dirige. Donc, il y a une imbrication. Je vous parlais un petit peu du diocèse ou du vicariat aux armées, c'est qu'il y a quand même une imbrication de l'un vers l'autre, et il n'y a pas de possibilité ecclésiale s'il n'y a pas un accord militaire et donc politique. Donc, il y a vraiment... c'est l'un avec l'autre, et pas l'un sans l'autre.
Quel est le regard que l'armée française pose sur ces prisonniers ? Est-ce qu'elle a déjà un objectif de réconciliation, de dénazification, finalement, cette masse qui lui incombe ? Comment la regarde-t-elle ?
Alors, c'est assez compliqué parce que de répondre à cette question. La première chose, c'est que le général qui s'occupe en janvier 1945, au moment où il est décidé ce séminaire, est un général qui s'appelle le général Boisseau, qui était en Afrique et qui, à l'issue de la campagne de Tunisie, à rassembler, ils étaient beaucoup moins nombreux, les prisonniers allemands au sein d'un camp, puis d'une abbaye qui s'appelle Rivet, où il a expérimenté en fait le fait de pouvoir mettre ensemble les futurs séminaristes, parce qu'en fait ces séminaristes-là, ils s'est rendu compte qu'ils étaient brimés dans les camps par les nazis, et que donc lui, son objectif, c'était de reformer une élite intellectuelle et spirituelle, et donc il les a isolés. Il a donné cette à Don Walser, qui était un père abbé bénédictin de l'abbaye de Beuron, la charge de créer cette entité ecclésiale. Et quand le général Boisseau arrive en France, lui, il est encore dans l'idée, pour lui, quand l'abbé Lemeur et l'abbé Rodin lui en parlent, lui, ça fait tout de suite écho avec ce qu'il a connu quand il était en Tunisie. Donc cette partie-là, elle est assez, assez favorable. Mais d'un autre côté, la guerre n'est pas encore terminée. Hein. On est en janvier-février 1945. C'est encore la guerre, et les Allemands commencent à comprendre l'ampleur de leur barbarie. Et donc, l'opinion n'est pas forcément favorable à ces prisonniers. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu… Il y a vraiment une entité qui comprend qu'en fait, il faut reconstruire l'Église et dénazifier les prisonniers. Il y a une autre partie qui… Et d'ailleurs, on le voit très bien quand ils sont en Orléans, qui est beaucoup plus revêche et qui cherche au contraire à les brimer.
Petite question sur ce séminaire de Rivet, dont on reparlera dans l'émission. Est-ce que, donc on l'a vu, le général Boisseau en fait une satisfaction. Est-ce qu'elle est objectivement une satisfaction? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de plus sur Don Walser, dont on aurait pu imaginer, par exemple, qu'il devint le supérieur du séminaire qui allait se monter en France?
Alors, sur Don Walser, donc Don Walser a quitté son comme père abbé en 1938, l'abbaye de Beuron. Il vient en France, il est naturalisé français, mais il est assez, de ce que j'ai compris, il est quand même assez maladroit, parce que il s'habille en capitaine français, puisque je sais pas, il a un grade de capitaine par son statut, et en fait c'est assez mal perçu par les prisonniers allemands, et donc en fait il y a un problème de confiance. Par ailleurs, lui, il veut, son objectif c'est vraiment de dénazifier, et donc il y a des polémiques, notamment avec la presse, donc en fait il n'a pas une bonne réputation, Don Walser, sauf auprès du général Boisseau, mais c'est pour ça qu'il n'est pas pressenti pour être le supérieur du séminaire. Et en plus, lui se trouve à ce moment-là en Algérie. Il y a ce séminaire de Rivet, et l'objectif c'est d'en créer un autre. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait fait du séminaire de Rivet, sachant que bon, ils sont à l'époque une soixantaine. Il n'était pas question de les rapatrier à ce moment-là en France. On n'en avait pas les moyens. Donc, en fait, on aurait déplacé un problème pour un autre. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas pressenti pour être le supérieur. D'autant que si Général Boisseau s'active pour que Don Walser soit supérieur, le nonce Roncalli est aussi sollicité, et il émet un avis défavorable. Donc, ça ne peut pas être Don Walser. Il faut trouver un autre supérieur de séminaire.
Nous allons continuer à découvrir cette histoire avec vous, Alexis Neviaski, à l'occasion de la publication de votre ouvrage « Le séminaire des Barbelés, 1945-1947. Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-armande chez Arthège », après une première pause musicale. Thank you. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alexis Neviaski, qui publie le séminaire des barbelés aux éditions Artege. Nous découvrons les prémices de cette formidable aventure religieuse, mais pas que, avec l'auteur. Je vous cite la lettre que l'abbé Lemeur écrit à Franz Stock au moment d'essayer de le convaincre de devenir le supérieur de ce séminaire. Et puis, vous nous en ferez un petit commentaire, si vous le voulez bien, Alexis Neviaski. Nous voulons leur insuffler cet amour spirituel qui les rapprocherait du sacerdoce et leur offrir l'occasion, après une longue interruption, de devenir, sous peu, un élément de renouveau catholique dans leur pays.
Oui, donc c'est ce dont je vous parlais. Il faut se rendre compte quand même que le régime nazi a persécuté l'Église catholique. On en parle assez peu, mais il y a énormément de prêtres, soit qui ont été déportés, soit qui ont été enrôlés et qui sont tués. D'ailleurs, au moment de... Enfin, on y reviendra plus tard, mais bon, il y a eu des ordinations, et les nouveaux ordonnés sont en fait les seuls de leur génération, alors qu'ils étaient énormément au séminaire. Donc, il faut vraiment la reconstruire, cette église allemande. Mais il faut que les prêtres, les futurs prêtres qui sont en camp de prisonniers puissent se former. C'est pour ça qu'on parle d'une longue interruption et du renouveau catholique de leur pays, parce que tout est à reconstruire, l'Église, mais aussi la société allemande.
Église, société allemande. Il écrit à Franz Stock, l'abbé Lemeur. On l'a vu, le courant n'était pas immédiatement passé entre les deux hommes. Mais c'est peut-être le moment de revenir un peu sur la biographie avant cette lettre de l'abbé Lemeur à Franz Stock, de celui qui prendra la tête du séminaire.
Oui, donc Franz Stock est un prêtre du diocèse de Paderborn en Allemagne. Et il a fait un premier séjour. D'ailleurs, c'était le premier allemand après la Première Guerre mondiale venir faire des trimestres du séminaire en France en 1926. Après son ordination, donc il est l'aumônier de la paroisse allemande de Paris. C'est un amoureux de la France. Il parle très bien français. Il connaît très bien la culture classique française. Il adore la Bretagne. Et il est vraiment très très francophile. En 1940, enfin pendant la partie de 1939, il doit quitter la France et il y revient une fois que après la campagne de 1940, il revient, il retrouve le chemin de sa paroisse allemande. Il est sollicité de façon d'abord informelle pour aller visiter les prisons françaises, notamment ce qu'ils appellent les terroristes, les résistants pour nous, puisqu'en fait il est allemand et l'idée c'est que ce soit un prêtre allemand qui aille voir les prisonniers français. Donc il commence et de fil en aiguille, il le dit d'ailleurs, hein, il passe d'abord une demi-journée, puis une journée, puis à la fin, c'est 5 jours, 6 jours, 7 jours par semaine. Il passe à la prison, il passe dans plusieurs prisons. Et il accompagne ceux qui vont mourir jusqu'au poteau d'exécution et même plus. Et d'ailleurs, je faisais référence tout à l'heure à son journal de guerre. Dans son journal de guerre, il dit même où ils sont enterrés et il fait le lien entre ces pauvres malheureux et les familles. Et parfois aussi, il intervient pour obtenir des grâces, notamment en lien avec le cardinal Suard, puisque tout ça se fait en lien et en accord avec le cardinal et l'abbé Rodin dont on parlait, qui d'ailleurs lui donne des livres, et des livres qu'il transmet aux prisonniers. Donc en fait, c'est un petit peu le messager entre l'intérieur et l'extérieur de la prison, et avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, il arrive à apaiser les prisonniers et à donner des nouvelles à leurs familles et à faire passer des messages. Et d'ailleurs, plus tard, le ministre le ministre de la guerre, hein, qui sera, donc c'est Michelet, hein, qui sera...
Edmond Michelet, oui.
Voilà, qui viendra le voir au séminaire, témoigne que en récitant le « Je vous salue Marie », il donne des informations sur sa famille, et vice-versa, il donne des informations de Michelet à la famille de Michelet. Donc, il fait vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qui a marqué... donc, il connaît très bien l'abbé Rodin. Et ce qui a marqué aussi le Bérodin comme le cardinal Suard, c'est sa double loyauté. Il est loyal à sa tâche, il est loyal à son pays, mais il est aussi loyal à la France. Et donc, c'est pour ça que il voit pas qu'il pourrait finalement prendre le séminaire, excepté l'abbé Stock, qui a cette double culture, cette double amour des deux pays, et qui est pas du tout partisan.
Et lui, par exemple, pour nos auditeurs, qui a accompagné Nicolas, le commandant Destiendorf, oui, à la mort le 29 août 1941.
Manoukian aussi, hein, il a accompagné aussi Manoukian. Enfin, on estime qu'il a à peu près accompagné 1000 fusillés.
Ouais, ce qui est énorme, et c'est intéressant, ça revient régulièrement. On sent que ces martyrs, que ces condamnés à mort l'accompagne dans sa vie intérieure et dans son état psychologique longtemps, il n'a pas vécu très longtemps après, mais pendant toutes les années qui suivent également.
Oui, il est hanté en fait, hein. Il est hanté par tous ces jeunes, hein, ou moins jeunes qu'il a accompagnés, et en fait, il explique plus tard, et je le mets dans le livre, que en fait, il vit encore pour eux, il vit par eux, et qu'il les porte à l'hôtel, et que en fait il est finalement miné, et il a aussi des fluctuations de... parfois il est un petit peu... Bon, il est très fragile physiquement, mais aussi parfois un peu psychiquement, psychologiquement, plutôt que psychiquement, psychologiquement, parce qu'accompagner autant de personnes jusqu'au poteau d'exécution et les ramener au cimetière, c'est sûr que... et passer la nuit en prière avant l'exécution avec eux, c'est sûr que ça marque durablement.
Il est dans une situation où il a refusé de quitter Paris au moment où Paris est libéré. Il s'enferme à l'hôpital, je ne me souviens plus, à la Pitié, je crois,
oui,
avec 600 prisonniers allemands. Et c'est important à noter, quand l'abbé Lemeur lui écrit pour qu'il prenne la tête de ce séminaire, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est qu'il est lui-même prisonnier.
Oui, donc à la fin, enfin avant la libération de Paris, hein, l'abbé Stock demande à pouvoir rejoindre comme aumônier, comme vous voulez dire, l'hôpital Salpêtrière, et il assiste au combat, et en fait il secourt les mourants de l'hôpital, et quand les résistants prennent l'hôpital, en fait, à un moment, ça se passe très très mal. Et en fait, l'un des chefs des résistants reconnaît l'abbé Stock, qu'il avait lui-même vu en prison. Et à partir de ce moment-là, le prend un peu en protection. Ensuite, les Américains arrivent. Donc, c'est un peu plus compliqué, puisqu'ils sont assignés à résidence, que du coup, l'abbé Stock est considéré comme prisonnier. Et qu'il est assigné en résidence. D'ailleurs, il passe son 40e anniversaire dans sa chambre tout seul. Il arrive quand même à aller de chambre en chambre pour apporter le soutien des sacrements. Et puis, finalement, on lui dit qu'il va partir en Angleterre. Mais il ne part pas en Angleterre. Il est envoyé dans un camp près de Cherbourg, où il est aumônier d'un camp de prisonniers avec d'autres prêtres sous tente à Cherbourg.
Si bien que pour que l'abbé Lemeur, auquel il finit par accepter la demande, vienne de récupérer à Cherbourg, c'est toute une expédition.
Alors, la première expédition, c'est que la lettre parvienne à Franz Stock, parce que d'abord, ils ne savent pas précisément comment faire pour le joindre. Et donc, en fait, ils utilisent plusieurs intermédiaires. D'abord, l'un des prêtres local. Ensuite, l'un des prêtres du camp de prisonniers, qui donc le chef des prêtres du camp de prisonniers, qui remet la lettre plusieurs jours après à Franz Stock. pour répondre, c'est plus facile pour Franz Stock, puisque voilà, il hésite, hein, parce que d'abord, il s'estime pas fait pour ça, et il n'est pas docteur, il peut pas enseigner, il n'a pas de reconnaissance, il n'a pas de légitimité. Et puis ensuite, finalement, dans son camp de prisonnier, il est avec les âmes qui en ont besoin. Il confesse beaucoup, il célèbre la messe, et il dit, ma place, finalement, c'est peut-être plutôt là. Et puis, il en parle avec ses collègues, et puis il prie, et puis finalement, il se dit, non, ma place, c'est là où on m'appelle. Donc, il répond positivement à l'abbé Lemeur. Sauf qu'entre le moment où l'abbé Stock répond positivement et où l'abbé Lemeur vient le chercher, il se passe un petit peu de temps, parce que il faut que les choses se mettent en place, notamment d'un point de vue administratif, puisqu'il est prisonnier américain, qui doit être rendu aux Français. Donc ça prend un peu de temps. Et puis ensuite, une fois qu'il est sorti du camp, mais qu'il n'est pas encore rendu aux Français, il est amené dans un camp, dans un commissariat de police, où personne ne comprend pourquoi est-ce qu'il est prisonnier même Franz Stock ne comprend pas ce qui se passe. Heureusement, il a gardé une lettre, la lettre de l'abbé Lemeur, ce qui fait qu'il a quand même un petit régime de faveur. Et puis finalement, plusieurs jours après, arrive l'abbé Lemeur, qu'il a enfin retrouvé pour partir sur Paris.
Une fois arrivé à Paris, ce duo doit donc mettre en place le séminaire. D'abord, cette préparation du séminaire, elle demande une acceptation des autorités militaires. Comment est-elle obtenue et comment ce duo va-t-il s'atteler à la tâche?
Alors, les autorisations militaires étaient obtenues avant l'écriture de la lettre. Il était convenu déjà dès le mois de janvier qu'on essaierait de regrouper les prisonniers de guerre allemands. L'abbé Lemeur était lui-même parti voir Rivet pour voir comment ça fonctionnait. Donc, il avait vu que c'était plutôt une communauté religieuse que vraiment un séminaire. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'il souhaitait. Donc, la partie militaire, c'était déjà acté, en fait. Après ça, il a fallu donner un statut à l'abbé Stock. Donc, il avait une forme de double statut. Il était prisonnier, mais il a un laissé-passer. Il est quand même commandant et il peut quand même sortir des camps de prisonniers. Donc, il a un statut un petit peu à part. Et puis, d'un point de vue de l'Église, il rencontre Monseigneur Suard, donc l'archevêque de Paris, qui l'intronise en fait dans la mission. Et tous les éléments étaient déjà prêts avant que l'abbé Stock n'arrive, puisqu'il y avait déjà regroupé à Orléans, donc le lieu était trouvé, quelques séminaristes qui étaient arrivés, une vingtaine, avec encadrés par deux prêtres. Donc il y avait déjà un petit embryon quand l'abbé Stock est arrivé.
Cet embryon, comment est-il arrivé là finalement? Comment l'armée française réussit-elle à détecter ces séminaristes ou ces volontés de séminaristes? Et pourquoi envoie-t-elle ces gens à Orléans?
Alors d'abord, pourquoi Orléans? D'abord parce que c'est proche de Paris, donc il y aura toujours quand même un lien facile avec l'aumônerie, parce qu'il y a un séminaire à Orléans, et que là on part de zéro, donc on se dit que le séminaire d'Orléans pourra aider le séminaire des prisonniers de guerre, et puis parce qu'il y a la caserne du Noy, qui semble offrir les caractéristiques qu'il faut. Ça, c'est la partie pourquoi Orléans. Maintenant, la partie détection des séminaristes, elle va prendre du temps. Les messages sont passés par l'intermédiaire de l'aumônerie militaire au camp, et les prêtres, et d'ailleurs l'abbé Stock avait commencé, qui ont connaissance de séminaristes, de religieux ou de jeunes voulant s'orienter vers le sacerdoce, sont priés de faire remonter à l'aumônerie les noms, les adresses, tout ce qu'ils peuvent comme information. Et à partir de ce moment-là, ceux qui sont dans les camps français, c'est plus facile, sont envoyés sur Orléans. Ceux qui sont dans les camps américains, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord que les Américains acceptent les transferts. Et donc, ça prendra un peu plus de temps et on verra avec pas mal de difficultés. Donc, les premiers qui arrivent, ce sont des prisonniers de guerre qui sont dans des camps français.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Neviaski qui publie Le Séminaire des Barbelés, 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande, aux éditions Arthège. Quand l'abbé Stock arrive-t-il concrètement à Orléans et quelles sont les conditions de vie de cette caserne du Noy?
Alors, il arrive le 22 avril 1945 à Orléans. Hein. Il est libéré depuis le 18 avril. Hein, sur le chemin, ils sont passés par Lisieux. Il a voulu aller se recueillir auprès de Sainte Thérèse, où il a célébré d'ailleurs la messe à Lisieux. Donc, il passe assez peu de temps à Paris. Et quand il arrive à Orléans, il va rendre visite à Monseigneur Courcou, qui est l'évêque, et il prend contact avec les autorités militaires également. La caserne, à ce moment-là, elle a été bombardée, donc il y a une partie qui est déjà qui est détruite et qui est pas possible d'installation. Et il y a un étage, une partie d'un étage qui est dévolue au séminaire. Donc il y a à peu près deux grandes pièces où ils pensent pouvoir mettre à peu près 20 personnes, donc ça fait 40 personnes. Et puis il y a des petites pièces attenantes où il peut faire des bureaux, l'infirmerie, etc. Donc c'est une organisation qui est assez précaire. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de mobilier, par exemple. La chapelle, la caserne n'avait pas prévu de chapelle. Donc la chapelle se trouve au rez-de-chaussée, c'est pas très très pratique. Ils sont en plus imbriqués avec les autres prisonniers, c'est très bruyant. C'est une zone de passage. Donc c'est. Et quand ils arrivent, les prisonniers, quand on leur dit qu'ils arrivent pour le séminaire, en fait, au début, ils sont un peu démoralisés parce que c'est ruiné, bombardé, parce qu'il n'y a aucun confort, il n'y a rien. Parce que, je le disais aussi tout à l'heure, ils sont assez mal vus parce que les prisonniers travaillent, notamment ils reconstruisent les chemins de fer, en tout cas à la caserne du Noy, et eux ne travaillent pas. En plus, les prisonniers, normalement, prennent leur repas au réfectoire, mais les quelques prisonniers du séminaire ont leur repas entre eux dans leur chambre qui fait tout, en fait. Donc, la cohabitation est assez difficile.
Cohabitation difficile et une réalité très profonde sur laquelle vous revenez longtemps, vous en avez déjà subodoré l'existence, c'est la faim qui tiraille tous les prisonniers.
Oui, parce que on arrive à la fin de la guerre, le pays est exsangue et le peuple de France a faim, mais il n'a pas de quoi nourrir aussi les prisonniers. Donc en fait, il y a vraiment... d'ailleurs, quand l'abbé Lemeur et l'abbé Stock arrivent, c'est le dimanche midi, et c'est normalement le meilleur repas de la semaine. En fait, les prisonniers font voir le repas à l'abbé Lemeur, donc ils sont obligés de convenir que c'est pas une ration normale et c'est pas ce qu'il faut. Quand l'abbé Stock, comme je vous le disais, avec son statut, sera installé, il aura le droit de sortir et il ira en ville pour essayer de récupérer un peu de nourriture pour les prisonniers du séminaire qui, effectivement, meurent de faim, avec tout ce que cela comporte aussi comme impossibilité à travailler ou comme trouble physique.
Ouais, d'ailleurs, vous précisez que très rapidement, une des premières choses qui est installée dans le séminaire, c'est l'infirmerie, parce qu'il y a une partie des effectifs est simplement incapable de suivre les études.
Oui, de suivre les études. En plus, comme il n'y a pas d'hygiène, il y a des poux, c'est... Effectivement, les débuts sont très difficiles et d'ailleurs, à un moment, ils sont découragés et ils vont voir l'abbé Stock, les séminaristes, en leur disant que jamais ils vont y arriver et qu'il faut arrêter l'expérience. Et ça arrive très rapidement après l'ouverture. Tellement il n'y a rien, en fait. Il n'y a même pas de papier pour écrire, il n'y a pas de livre. L'abbé Stock, il y a deux professeurs, donc en fait, ils font tous les cours. Il y a deux professeurs et il a du mal à avoir des livres, donc il va en chercher au séminaire. Il faut des livres allemands. Pour suivre les offices, il n'y a pas de missel, bien entendu, il n'y a pas de papier pour écrire, donc c'est quand même très très compliqué, Et à un moment, le moral, pas de la Bestock, mais en tout cas de ses élèves, flanche. Ils vont voir la Bestock en leur disant qu'il faut arrêter. Et la Bestock, lui, leur dit, bah non, on va certainement pas arrêter. Mais il écrit quand même à l'abbé Lemeur pour dire qu'ils sont dans une situation assez compliquée. Et l'abbé Lemeur l'avait bien compris parce qu'il avait anticipé cette difficulté, qui restera d'ailleurs assez longtemps, mais avec l'idée d'avoir des bienfaiteurs qui enverraient de la nourriture et qui finalement adopteraient un séminariste pour que ce séminariste puisse continuer ses études par l'intermédiaire notamment de communautés religieuses.
À ce stade du séminaire, on parle de combien d'élèves ?
Alors, au début, bon, ils sont arrivés, ils étaient 3. Après ça, ils ont été 20. Quand l'abbé Stock arrive, ils sont 20. Et quand ils quitteront, au mois d'août, ils seront, je crois, 106 à partir. Donc, on voit que c'est quand même... Alors que je vous disais que les locaux étaient prévus au maximum pour 40. Donc, il y a quand même une surpopulation qui fait que, outre les difficultés en plus internes au camp 51, donc à la caserne du Noix, où les séminaristes, certains se font rouer de coups parce qu'ils ne se font pas accepter, c'est encore une ambiance très nazie. Ça devient vraiment impossible de rester dans cette caserne.
Impossible de rester dans cette caserne, et pourtant, évidemment, une solidarité qui est présente. Vous écrivez « Progressivement, le groupe d'étudiants prend l'allure d'une petite église domestique, une famille au sein de laquelle joies et peines sont partagées. »
Oui.
Est-ce que vous avez pu parcourir des témoignages de gens qui ont connu ce premier camp, par exemple, à Orléans ?
Oui. Donc, alors, j'ai pas pu les interroger, puisqu'en fait, ils sont tous décédés maintenant.
Oui, par définition.
Mais en revanche, il y a eu des témoignages qui ont été enregistrés et auxquels j'ai eu accès. Il y a les témoignages donc du procès de béatification de Franz Stock. Et enfin, il y a des témoignages écrits qui ont été faits après, notamment plusieurs séminaristes, mais un qui s'appelle Joseph Seffer et qui a écrit un livre « Chanter derrière les barbelés ». Et qui est aussi interviewé parce qu'il est mort l'un des derniers et qui est aussi interviewé. Donc, on a vraiment, je pense qu'on arrive à se rendre compte de ce qu'a été cette vie à Orléans.
On l'a dit, Orléans va être quitté en août pour des raisons évidentes d'arrangement. Simplement, en juin 45, il y a eu un petit nouveau dans cette équipée, c'est un prêtre du diocèse de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce prêtre et finalement nous informer de ce qu'il vient faire dans cette galère ?
Oui, donc le prêtre s'appelle l'abbé Joseph Jauneur. D'ailleurs, donc j'ai eu accès, parce que je suis à Strasbourg, grâce aux archives du diocèse, et ils sont deux frères en fait du diocèse de Strasbourg. Lui, c'est le petit frère, c'est le cadet. Il a été ordonné pendant la guerre. Et donc c'est un tout jeune prêtre. Le séminaire a quitté Strasbourg au moment de l'invasion. Il s'est replié dans le Massif central. Et comme je vous disais, l'abbé Lemeur, quand l'abbé Stock lui a écrit, il avait anticipé la question et il s'était rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un Français pour faire le médiateur finalement entre la direction du camp et le séminaire pour qu'ils arrêtent de se faire brimer. Donc, il s'en est ouvert au général Boisseau. Et puis, de façon assez providentielle, au même moment, l'abbé Jauneur, lui, s'en est ouvert et à son évêque, et il se trouve encore en ce moment dans le Puy-de-Dôme, et à son supérieur, parce qu'il vient juste d'être ordonné, en disant qu'il voudrait rentrer dans l'aumônerie militaire. Et donc, en fait, on lui propose de rejoindre le séminaire des Barbelés, donc le séminaire des prisonniers de guerre, parce qu'il ne s'appelle pas encore le séminaire des Barbelés, le séminaire des prisonniers de guerre, et il dit oui, ça l'intéresse, il le souhaite, en plus il parle allemand, il a la double culture aussi, donc ce qui est aussi très appréciable, et donc il arrive au mois de juin pour faire l'interface et faire qu'en fait le séminaire soit vivable d'un point de vue militaire, dont il devient le responsable, mais aussi d'un point de vue ecclésial, et avec les autorités du camp et les autres prisonniers.
Nous allons nous quitter pour quelques instants d'une pause musicale et puis nous retrouvons Alexis Nevieski qui publie Le séminaire des barbelés 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthège.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Charles Demire a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Nevieski qui publie Le séminaire des barbelés 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthège. Finalement, d'Orléans, le séminaire va déménager à Chartres. Pourquoi ce déménagement?
Alors, il y a une question de place. Puisqu'en fait, ils estiment à ce moment-là que le séminaire pourrait avoir jusqu'à 300 séminaristes, et ils sont déjà 100, et ils sont déjà trop serrés. Ensuite, on n'a pas parlé du commandant Gouru, qui était le commandant du camp à Orléans, qui était favorable, lui, et d'ailleurs qui appelait de ses voeux le séminaire, en tout cas cette initiative, et lui, il quitte Orléans pour Chartres. Et quand il arrive à Chartres, il se rend compte qu'il a de la place et il propose un bâtiment à l'abbé Lemeur. Donc, ce sont les deux raisons principales. Une fois que l'évêque de Chartres donne son accord, puisqu'il faut qu'il y ait accord de l'évêque de Chartres pour que s'implante le séminaire, les choses sont assez rapidement menées. Ils arrivent à Chartres le 17 août.
Ils arrivent à Chartres le 17 août. Là, quelle est la qualité des locaux qu'ils voient? Est-ce que, vous l'avez dit, je crois, Chartres, ce sera 36 000 prisonniers. Est-ce qu'ils ont une aile qui leur est complètement dédiée? Finalement, comment ça se déroule-t-il?
Alors, le camp de Chartres, ce sont des anciens hangars pour l'aviation, notamment pour tout ce qui est phare anti-aérien. Donc, ce sont des énormes hangars et ils ont... Un hangar pour eux tout seuls qui mesure à peu près 70 mètres de long sur 20 de large. Mais la difficulté, c'est qu'il n'est absolument pas aménagé. C'est complètement vide, c'est un plateau. Et d'ailleurs, quand Franz Stock a été visité, il s'est rendu compte que ça ne serait pas chauffable tellement c'est gigantesque. Hein. Donc, il avait émis quelques réserves à s'installer là. Bon, finalement, il n'y a pas eu le choix, ils se sont installés là. Donc, il y a ce grand hangar En plus, il y a des petites baraques autour. Et la superficie, en fait, qui leur est attribuée, hein, c'est à peu près 2 hectares. Donc là, au moins, ils auront de la place. Ils seront aussi complètement entre eux, à la différence d'Orléans, où ils étaient imbriqués avec les autres prisonniers. Donc, ils vont pouvoir avoir une vie, une fois qu'ils seront installés, en tout cas, qui sera plus portée aux études et à la vie telle qu'on pourrait l'imaginer en communauté.
Cette vie, elle est importante également dans le rapport avec le diocèse. On l'a vu, l'abbé Stock avait fait la visite de l'évêque d'Orléans. Quels vont être les rapports avec l'évêque de Chartres?
Ils vont être excellents. Et d'ailleurs, je termine, je ne vais pas te donner la fin du livre, mais donc, il s'appelle Monseigneur Arscoët. Il a comme secrétaire l'abbé André, dont le père est mort pendant la Première Guerre mondiale en étant lui-même prisonnier. Mais il a écrit un testament à sa femme en disant qu'il était content de mourir en Allemagne puisque c'était là où le Seigneur l'avait amené et qu'il n'en voulait pas du tout aux Allemands. Donc il y a une forme déjà dans la façon dont Monseigneur Arscoët appréhende les choses par l'abbé André, il y a quelque chose de positif. Et ils arrivent le 17 août. Et le lendemain, Monseigneur Arscoët vient les voir. Donc, c'est assez rapide, ce qui prouve qu'il est vraiment… et il leur dit « mes chers enfants ». En fait, ils sentent vraiment que finalement, ils ont trouvé un père, là, à Chartres. Et il va venir de très nombreuses fois pour les fêtes, comme ça, pour le début de l'année ou pour les examens, enfin, à plusieurs, en fonction des fêtes liturgiques. Donc, il y a vraiment une grande proximité entre l'évêque de Chartres et le séminaire, et il considère les séminaristes comme ses enfants.
Il y avait à Orléans le développement d'une solidarité, notamment pour la réception des colis avec une communauté de sœurs qui s'en occupaient. J'imagine que c'est aussi un des principaux enjeux pour l'arrivée à Chartres de finalement permettre aux séminaristes d'avoir un quotidien acceptable.
Oui, tout à fait. Donc il y a un transfert qui est fait d'Orléans à Chartres aussi dans les donateurs. Donc là, il y a à Chartres, il y a aussi une communauté qui accepte de s'occuper de recevoir les colis parce qu'en fait, il est impossible. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté de faire de la publicité sur ce séminaire, puisque sinon l'opinion publique qui est à ce moment-là pas très germanophile, il faudrait certainement le fermer le séminaire, parce que ces prisonniers, normalement, ils devraient travailler pour la construction de la France et pas pour se former. Donc ça passe par des communautés religieuses et il y a un bon transfert qui se fait et il y a même une accélération puisqu'il y a une nouvelle campagne qui est entreprise et finalement le rythme se met doucement en place.
Un rythme qui se met en place et un ami, un protecteur qui vient visiter le séminaire, c'est le nonce qui est promis un grand destin. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état de cette relation entre le nonce apostolique et le séminaire des Barbelés?
Alors là aussi, c'est un lien assez étrange. D'abord, Monseigneur Roncalli a été aussi, je crois, supérieur ou en tout cas enseigné dans les séminaires, donc il n'y est pas insensible. Et il comprend bien que la reconstruction de l'Allemagne passe aussi par la reconstitution de son clergé. Et puis, il y a une difficulté aussi canonique, c'est-à-dire qu'il est quand même compliqué qu'un évêque français, Monseigneur Arscoët, soit le supérieur finalement d'un séminaire allemand. Et il serait compliqué qu'un évêque allemand soit le garant d'un séminaire qui se passe en France. Donc, assez naturellement, Monseigneur Roncalli est non seulement le protecteur du séminaire, mais finalement, il en devient, d'une certaine manière, le supérieur ecclésial. Et donc, il va venir de nombreuses fois. Il vient notamment dès le 18 septembre. Alors, il avait déjà essayé de venir parce que y a aussi une proximité entre Franz Stock et Mgr Roncalli. Et quand Franz Stock avait pu se rendre à Paris en juin 1945, il avait rencontré Mgr Roncalli, et Mgr Roncalli lui avait dit qu'il viendrait pour le 14 juillet. Et en fait, Mgr Roncalli n'a pas pu rentrer, donc c'était à ce moment-là à Orléans, parce qu'il est diplomate, et qu'il n'y a pas eu les autorisations, et les papiers n'ont pas été faits. Donc c'est un échec. Mais il avait dit qu'il reviendrait dès qu'il pourrait. Et effectivement, le 18 septembre, cette fois-ci, avec l'autorisation à la fois des Affaires étrangères et du ministère des Armées, Mgr Roncalli vient au séminaire visiter le séminaire, les séminaristes et plus encore le camp.
Quelle est son impression ? Est-ce que cela encourage encore son amitié pour cette initiative ?
Ses impressions, elles sont... il est un peu désolé, le nonce. Il est désolé de la façon et de la manière dont sont traités les prisonniers. Et il se dit comment est-ce possible qu'on traite de la sorte les prisonniers de guerre en général. Et au cours de la visite, bon, il se rend compte de l'état rachitique des séminaristes. Il se rend compte aussi de la grande difficulté matérielle dans laquelle ils sont. Ils sont là depuis un mois, ils n'ont pas encore... Enfin, il faut qu'ils construisent tout, hein, c'est un hangar. Et puis, quand le nonce déambule dans le camp, il rencontre les aumôniers militaires des autres blocs. Il y a différents blocs dans le camp. Il ouvre une porte, mais il ne savait pas où est-ce qu'il allait arriver, parce que sinon, il n'aurait peut-être pas ouvert la porte. Il arrive à la morgue. La morgue qui donne, après ça, sur l'infirmerie. Et il se rend compte de l'état physique et sanitaire et de la faim qu'il y a dans le camp. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains ne veulent pas transférer les prisonniers américains vers les camps de prisonniers français, puisqu'ils estiment que les Français ne font pas ce qu'il faut pour nourrir les prisonniers de guerre allemands, et que dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas leur transférer. Et Mgr Roncalli et l'abbé Lemeur et l'abbé Rodin sont des voix qui disent que ce n'est pas possible que la France traite des...
Oui, il y a un mouvement de prise de conscience aussi à ce moment-là.
Oui, et l'abbé Lemeur écrit dans le Figaro, enfin il y a une chronique dans le Figaro, la Croix-Rouge intervient, ça passe en Conseil des ministres, enfin ça devient vraiment une affaire. C'est peut-être une supposition, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'abbé Lemeur et l'abbé Rodin publient, sont interviewés, et je pense que le nonce aussi intervient, et à partir de ce moment-là, il y a des mesures qui sont prises pour qu'il y ait un meilleur flux logistique vers les camps de prisonniers, non seulement en nourriture, mais également aussi en couverture, en chaussures, enfin tout ce qu'il faut, quoi.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles Demire a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Neviaski qui publie le Séminaire des Barbelés aux éditions Arthège. Les cours vont reprendre le 18 octobre. Il y a 125 séminaristes qui reprennent leurs études. Est-ce que le personnel professoral a aussi été accru?
Oui. Donc, et c'est un enjeu, les professeurs. Parce que pour qu'il y ait un séminaire, il faut qu'il y ait une reconnaissance des diplômes, dont on parlera peut-être, mais pour qu'il y ait une reconnaissance des diplômes, il faut avoir des professeurs qui soient vraiment des professeurs, qui soient formés. Comme je vous le disais, Franz Stock, au début, pensait qu'il ne pouvait pas être le supérieur, puisqu'il n'était lui-même pas docteur. Donc, il a fallu aussi identifier des professeurs parmi les prisonniers, que ce soit des professeurs ecclésiastiques ou laïcs. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des gens qui soient eux-mêmes bien formés pour bien former les étudiants. Alors, ils sont en manque de professeurs. D'ailleurs, Franz Stock donne lui des cours. Hein, il donne des cours de liturgie, il donne des cours d'histoire de l'art. Enfin, tout le monde met la main à la pâte, mais l'enjeu du corps professoral est un véritable enjeu.
Tout le monde se démène à ce moment-là, c'est très intéressant à noter, notamment Franz Stock, qui est pourtant dans un état de santé catastrophique.
Oui, donc Franz Stock est très malade. Probablement que toutes les souffrances qu'il a endurées durant son temps d'aumônier de prison n'y sont pas pour rien, notamment pour ses problèmes cardiaques. Et il n'est pas en mesure de... Il est très fragile. Il tombe souvent malade. Il est rapidement épuisé. Donc, il faut qu'il fasse des cures ou en tout cas qu'il se mette au repos. Donc, par l'intermédiaire d'un chanoine de la cathédrale de Chartres, il rencontre une veuve qui a le château du Thiolin et qui lui permet de faire des séjours pour se reposer et aussi pour que les séminaristes, donc ça c'est aussi grâce à Monseigneur Roncalli qui, l'abbé Stock lui demande, et Monseigneur Roncalli dit que c'est possible, donc puisqu'il dit que c'est possible, ça s'arrange avec les autorités politiques françaises, qu'aussi les séminaristes qui sont fragiles et malades puissent avoir des périodes de convalescence dans ce château où Franz Stock séjourne très régulièrement.
Évidemment, c'est important, d'autant plus qu'au même moment, les effectifs du séminaire explosent.
Oui, alors une fois que les problèmes d'approvisionnement et logistique sont passés, les Américains acceptent les transferts et le séminaire double, puis triple, puis quadruple de volume en quelques temps.
Ça donne évidemment le tournis en termes d'organisation. Il y a un aspect qui est très notable également dans le camp en général et tout spécifiquement dans le séminaire, c'est la place des arts. Il y a très régulièrement des répétitions de musique, une scola, une chorale, des clubs de théâtre. Les arts ont vraiment leur place dans cette vie des prisonniers.
Oui. Alors, ça, c'est aussi un peu la marque de Franz Stock. Qui est lui-même artiste, il est peintre. D'ailleurs, il va peindre, il va décorer de fresques la chapelle. Et un autre séminariste fera le chemin de croix. La place de l'art, de l'expression artistique et du dépassement de soi par le développement de ses talents et de ses dons fait vraiment partie du séminaire. Et il y a des expositions, d'ailleurs, quand Monseigneur Roncalli vient, alors qu'ils n'ont encore rien, ils ont fait une exposition d'art que Monseigneur Roncalli viendra voir. Donc, la dimension artistique et la recherche du beau est quelque chose de très important. Il récupère des instruments de musique, même d'un point de vue liturgique. Il récupère tout ce qu'il faut au diocèse qui les aide à s'équiper. Et très rapidement, il y a une beauté, une richesse liturgique aussi qui est atteinte et dont se souviendront d'ailleurs longtemps encore après les prêtres, les séminaristes devenus prêtres.
Il y a Alexis Navieski, il y a un moment qui a marqué, je crois, hein, vous me direz votre livre, c'est les préparatifs et la fête de Noël 1945. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est aussi marquant pour vous et pourquoi est-ce surtout très marquant pour la vie du séminaire des Barbelés?
Alors ce qui est... D'abord, pour eux, c'est le premier Noël après la guerre. Le Noël 44, ils étaient tous soldats et au feu. Là, c'est un Noël un peu d'apaisement. Mais surtout, il y a un élément qui est très, très important, c'est que c'est la première ordination le 23 décembre, la première ordination au séminaire d'un soldat qui était... diacre en 1939-1940 qui s'appelle Ingeberg Janosha et qui n'a pas pu être ordonné prêtre puisqu'il participe à la campagne de France, qu'après l'armistice il est encore mobilisé, il part sur le front russe, il est blessé, grièvement blessé au dos sur le front russe et donc il n'est toujours pas ordonné et c'est un franciscain. Donc, il est diacre depuis 5 ans son ordre donne son accord pour qu'il soit ordonné prêtre le 23 décembre. Donc, et pour beaucoup de séminaristes, c'est non seulement une espérance, mais d'ailleurs, c'est ce que dira Joseph Seffer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est tout jeune. Hein, il a été engagé à 17 ans, là, il en a 18-19. C'est même lui la première fois qu'il assiste à une ordination. Alors certes, c'est une ordination de guerre, l'évêque de Chartres qui
oui, l'État a demandé que ce soit fait dans une grande simplicité.
dans une grande simplicité, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable et qui marque que ce soit un évêque français qui ordonne un diacre allemand pour l'Église d'Allemagne.
Évidemment, préparatif marquant, et puis il y a tout l'aspect très traditionnel allemand de cette fête de Noël qui est magnifié à cette occasion. C'est aussi un moment de vacances pour les séminaristes. Finalement, ce Noël 1945, c'est aussi comme la confirmation, on peut dire, de la bonne intuition qu'il y avait à créer ce séminaire.
Oui. Et même si jamais tout n'est pas résolu, quand même, le séminaire, cette fois-ci, est vraiment lancé. Et l'amalgame entre ceux d'Orléans, ceux qui sont arrivés un petit peu après, et puis d'un seul coup, les 300 qui arrivent, puisqu'ils sont à ce moment-là à peu près 350 séminaristes, il y a aussi des frères converts dont on n'a pas encore parlé, eh bien, l'alchimie prend. Et c'est vraiment une communauté qui fête Noël et la nativité du Christ ensemble.
Ces fêtes de Noël, elles, vous l'avez dit, elles ne doivent pas masquer un certain nombre de difficultés qui continuent à être présentes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est important à noter. Il y a la question de cette particularité d'un séminaire allemand hors du territoire allemand qui fait face à diverses problématiques. D'abord, première réalité, est-ce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont parfois libérés et qui retournent directement en Allemagne? Est-ce qu'ils peuvent retrouver leur séminaire?
Alors, à ce moment-là, il n'y a pas encore de retour de prisonniers. Ils arriveront un petit peu après. Ils arriveront à partir du mois de février, janvier, février, mars. Ce sont ceux qui seront jugés inaptes physiquement. Et soit ils retrouvent leur séminaire. Certains d'ailleurs ne retourneront pas au séminaire et se marieront. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore vraiment de libération de prisonniers. Ça commencera premier trimestre de 1946.
L'autre question, c'est la question de la reconnaissance des études du séminaire. Et ça, c'est aussi tout un travail pour l'abbé Stock.
Oui, c'est un travail et c'est pas un travail facile. Et pourtant, c'est indispensable pour que les diplômes soient reconnus et que le temps passé à étudier soit pas du temps perdu. Donc, il se rend en Allemagne à la fin janvier 1946 pour faire le tour des diocèses pour avoir une reconnaissance des études. Son meilleur passeport, c'est le soutien de Monseigneur Roncalli. Et il obtient une première reconnaissance de l'évêque de Fribourg qui est d'accord pour reconnaître les diplômes sous certaines conditions qui seront délivrées donc par le séminaire, par le diocèse de Fribourg aux séminaristes prisonniers de guerre qui réussiraient leurs examens.
Ces voyages fatiguent l'abbé Stock, et qui va devoir avoir un adjoint assez rapidement si on veut une continuité qui puisse se faire au sein du séminaire.
Oui, parce que donc l'abbé Stock fait le lien entre le séminaire et l'extérieur. Il est aussi le directeur, le supérieur du séminaire, mais la difficulté de son état fait qu'il ne peut pas être présent en permanence et il a aussi des absences, même quand il est au séminaire. Donc, du coup, il faut qu'il y ait quand même personne qui puisse être le directeur spirituel du séminaire. Et donc, c'est une chose qui va être faite avec l'abbé Delbecq, qui était lui-même le responsable de tous les prêtres du camp de Chartres, donc qui est bien connu, qui est venu plusieurs fois prêcher à Saint-Près du diocèse de Münster, qui est venu plusieurs fois prêcher, et qui s'entend bien avec l'abbé Stock. Donc, c'est très important, le binôme, ils sont très différents. Autant l'abbé Stock est frêle, fragile, un peu doux et un petit agneau. Autant l'abbé Delbecq, c'est une armoire à glace. D'ailleurs, il y a un séminariste qui dit que si jamais il était militaire, ils se seraient tous retrouvés dans une caserne si c'était lui qui était le supérieur du séminaire. Il est tonitruant. Enfin, ce sont deux personnes très différentes, mais finalement qui se complètent et qui ont la même volonté, le même amour du bon Dieu, et puis finalement, ils sont tout donné, et l'un et l'autre.
Nous allons faire notre dernière pause musicale et retrouver Alexis Neviaski qui publie le Séminaire des Barbelés, 1945-1947, Franz Stock au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthage. Vous êtes de retour dans le Libre Journal des Débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Neviaski qui publie le Séminaire des Barbelés aux éditions Arthège. Cette année 45 est celle des défis, on l'a dit, aussi celle des reconnaissances. Visite encore du futur Jean 23, article dans le Time, visite d'Edmond Michelet. La reconnaissance, elle est grandissante pour le séminaire.
Oui. Plus le temps passe, plus la reconnaissance augmente. Même si jamais en France, il n'est toujours pas très très connu. Il le sera, comme vous l'avez dit, grâce à quelques articles. Et Franz Stock se rendra compte de la renommée du séminaire quand il retournera une seconde fois en Allemagne en septembre 1946. Pour avoir cette fois-ci non seulement une reconnaissance canonique entre guillemets de plusieurs évêques qu'il obtiendra, mais pour avoir aussi la possibilité d'ordonner des prêtres de ces séminaires. Et là, il se rend compte, puisque cette fois-ci, il y a des séminaristes qui sont déjà rentrés, comme on le disait, en Allemagne depuis à peu près le mois de février-mars 46, qui parlent du séminaire. On se rend compte qu'ils ont un bon niveau et que finalement, et c'est ce que disent les séminaristes, qu'ils étaient presque mieux à Chartres, en tout cas d'un point de vue matériel et au point de vue de la formation, que dans leur diocèse, puisque comme je vous le disais aussi au tout début de l'émission, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Église catholique allemande a été décimée par le régime nazi, et il y a moins de professeurs, il y a moins de séminaristes, et donc il y a une dynamique qui est moins importante. Donc oui, le séminaire en Allemagne a une notoriété grandissante, en France, il devient aussi un peu un objet de reconnaissance et le nonce, il vient assez régulièrement. Monseigneur Arskouet, il vient aussi beaucoup. Mais il y a d'autres évêques qui viennent, notamment des évêques allemands qui viennent visiter. Il y aura aussi un peu plus tard l'évêque de Strasbourg qui viendra voir l'abbé Jeuneur, mais qui participera également à la reconnaissance de ce séminaire par l'Église de France. Et puis, la reconnaissance aidant, on parlait de l'adoption des séminaristes et de l'envoi de colis. Et ben cet envoi est ouvert au-delà maintenant des communautés religieuses aussi à des fidèles catholiques de France.
Importance de la mobilisation en faveur du séminaire, rapport beaucoup plus positif du Comité international de la Croix-Rouge, je crois, en juin 46. Il y a donc des questions de maintenance qui sont réglées. Il vous a paru intéressant aussi de noter le rôle des vacances dans la vie des séminaristes, d'abord parce que c'est la réalité de la vie d'un séminaire et de tous les étudiants. Mais ce qui est marquant aussi, c'est que ce sont des moments d'amalgame avec la population française, de découverte entre les prisonniers allemands et les Français. Et vous racontez l'anecdote de la grande fascination qu'exerce la cathédrale de Chartres sur une partie de ces prisonniers allemands.
Oui, alors effectivement, c'est la rencontre. Ils sont à peu près 170 à partir à faire les travaux des champs ou des fermes, parce qu'ils vont aussi dans les élevages. Et donc, c'est une rencontre bienfaisante, réciproque avec la population française. Pour ceux qui sont restés, il y a toujours la pratique artistique, la pratique sportive. Hein, ils ont fait un stade, enfin, des installations sportives, mais il y a surtout la cathédrale de Chartres qu'ils voient depuis le camp de prisonniers, mais auquel ils n'ont pas accès. Et donc, l'abbé Jauneur obtient l'autorisation que par groupe d'une dizaine, ils puissent habiller en civil, alors qu'ils sont encore avec leur froc militaire ou en soutane. Donc, ils se changent aussi pour y aller, sans garde, puissent aller visiter la cathédrale. Et ça, c'est quelque chose qui va les marquer profondément, de pouvoir accéder à cette cathédrale où ils reviendront une fois d'ailleurs qu'ils seront ordonnés prêtres après la guerre, plusieurs fois, qui reste le symbole de ce séminaire, à la fois ce symbole de l'Église, de la Vierge Marie, qui leur reste finalement accessible même derrière les barbelés. Donc oui, et certains iront même deux fois. Visiter la cathédrale de Chartres.
Cette importance de la cathédrale, elle est aussi révélatrice d'une sorte d'amitié spirituelle qui se crée entre la France et l'Allemagne à l'occasion de ces études. L'évêque de Strasbourg, dont vous citez la visite, dont vous nous avez rappelé la visite, écrit en début 1947 qu'il leur faudra qu'une forme de paganisme a disparu, mais une autre encore plus dangereuse pour le monde est en train d'apparaître, la lutte entre les chrétiens et les païens. Il est 22h54 à Alexis Navieski, ce qui nous amène forcément à ramasser mes questions et faire de la synthèse de quelques réponses. Le séminaire va exister jusqu'à quand et est-ce que sa mission a été remplie?
Alors, le séminaire va durer jusque... Les derniers partent le 5 juin 1947. Il y a eu un premier convoi qui est parti à la mi-mai, le 16 mai. Oui, le séminaire a rempli ses missions. D'abord, c'était le plus grand séminaire d'Europe. Il y a eu 950 séminaristes. Je ne sais pas si vous imaginez, 950 séminaristes. Alors, je n'ai pas pu suivre tous les séminaristes. On a la liste de tous les diocèses, parce qu'en plus, il y a des religieux, mais on estime qu'il y a à peu près 650 qui ont été ordonnés prêtres. Donc, c'est quand même très conséquent.
Oui, c'est colossal, ouais.
Certains sont devenus pères abbés de leur couvent, de leur monastère. D'autres sont devenus évêques, et c'est sur ce point-là que je voudrais... dont je veux parler. Parmi ces évêques, il y en a un qui s'appelle Émile Stiel, qui était l'un des plus jeunes séminaristes et qui, dans les années 80, va donc dans la paroisse de Franz Stock, pour un hommage à Franz Stock, c'était en 88, et il dit, je cite, « Je porte l'anneau de cet évêque, donc c'est Monseigneur Arsquet, décédé en 1944, un anneau que je considère comme un testament et ma seule richesse matérielle de ma vie. » C'est-à-dire qu'il y a une transmission de l'anneau épiscopal entre l'évêque français et l'évêque allemand. Et donc, si ça, ce n'est pas un signe que finalement, il y a eu une réconciliation franco-allemande par l'intermédiaire de l'Église, ben, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre, quoi, en fait. Et qu'il y a vraiment une alliance spirituelle, une communion spirituelle qui est née entre ces deux peuples.
Vous l'avez dit, vous avez eu l'occasion de rencontrer le postulateur de la cause de béatification de Franz Toc. Je crois que cette cause a été fermée en 2022. Vous me corrigez évidemment si mes informations ne sont pas exactes. Franz Toc va mourir en 1948. Est-ce qu'on peut dire qu'il meurt de son industrie en faveur de ce séminaire qui finit par terrasser ses maigres forces?
Ce qui, bon, il a un cœur qui est très faible et il meurt assez subitement. Ce qui est sûr, c'est que son sacerdoce l'a consumé. L'a consumé quand il était aumônier de prison, l'a consumé quand il était séminaire, supérieur du séminaire de Barbelé, et que ses forces s'amoindrissent avec le temps. Il meurt dans l'abandon total, non seulement au bon Dieu, mais aussi des hommes, puisqu'il meurt seul, oublié. Et d'ailleurs, au moment de son enterrement, que ce soit Michelet ou les gens disent que c'est un scandale, il est dans une fosse comme des indigents, en fait. Il meurt en toute humilité, alors qu'il a fait énormément.
Il y a le testament de cette mort seule, il y a aussi son testament spirituel dont vous nous avez parlé au début de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce legs de Franz Toc?
Le testament spirituel de Franz Toc, en fait, il élève vraiment dans la période la période donc de la reconstruction et de la préparation de l'Europe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il réaborde la question en fait du bien et du mal tel qu'il se présentait à ce moment-là. Et il dit à un moment que c'est pas une question politique. C'est d'abord une question spirituelle, de reconstruction spirituelle pour créer un monde nouveau que la guerre a bouleversé, a provoqué aussi. Dans les cerveaux des blessures importantes, et que le tremblement est un tremblement de terre, mais c'est aussi et surtout un tremblement spirituel, et que eux, prêtres de la nouvelle génération, il faut que ce soit non seulement des amoureux du Christ, pour que cet amour du Christ ressurgisse sur les hommes. Donc c'est un testament spirituel, en fait, qui est parti de deux documents qu'on peut retrouver. L'un, c'est le prêche de Monseigneur Suard pour le carême 1947, et l'autre, c'est un texte de Joseph Folliette aussi sur l'avenir spirituel de l'Europe.
Ultime question, si vous le voulez bien, Alexis Neviaski. Et c'est une question peut-être piège, hein, donc pardonnez-moi si vous n'avez pas la réponse. On l'a dit, Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII, a eu un rapport très particulier avec ce séminaire des Barbelés. Est-ce qu'on sait si, une fois ce séminaire fermé, il en a conservé la mémoire, ou il a mobilisé cette mémoire dans ses apostolats qui y suivront?
Alors, il a conservé la mémoire, c'est sûr. Il a même conservé physiquement la mémoire, puisqu'il a reçu, une fois pape, en 1959, les séminaristes, notamment les deux séminaristes qu'il avait ordonnés, et ça devait durer 20 minutes, ça durait 1h40, leur rencontre, et il était recherché les albums photos qu'il avait pour reparler avec les séminaristes. Donc oui, il y a... Alors après ça, c'est sûr qu'il était très occupé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui l'a marqué tout autant que lui a marqué les séminaristes.
Un immense merci à Alexis Neviaski de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Séminaire des Barbelés 1945-1947, Franz Toc au cœur de la première réconciliation franco-allemande aux éditions Arthège, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci à la technique et à très bientôt pour un nouveau Libre Journal des Débats.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Débats dirigé par Charles de Meyer, Émission préenregistrée le 1er avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 8 avril de 21h30 à 23h et réalisée par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.